j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Déjà mercredi 7 février 2018, c'est Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, je ne vous demande pas comment ça va parce que ça va toujours bien pour vous.
Voilà, c'est dit. On en parle
oui,
plus.
Oui, oui, oui. En tout cas, ça, j'ai de la misère à croire ça. Des gens qui me disent toujours, qui répondent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie trop de parler de... Mais là, je vous vise pas nécessairement, mais c'est drôle comme réponse quand même. Comment ça va? Ah, ça va toujours bien.
Oui, bien, on dit que c'est un des plus grands mensonges de notre époque, ça. Comment ça va? Ça va bien.
C'est vrai. Alors, on vous écoute. Je pense que vous allez nous raconter la vérité là, dans vos éphémérides. Ce sont des faits avérés.
Et on débute avec aujourd'hui, 7 février, qui est la deuxième des trois journées mondiales sans téléphone cellulaire, telle qu'on a parlé hier.
Ah oui, ça continue.
Ça continue, oui, journée mondiale au pluriel. Donc, le 6, 7 et 8 février, journée mondiale sans cellulaire. Et je ne vous cacherai pas qu'encore une fois, je n'ai pas réussi à passer la journée sans mon cellulaire.
C'est votre bureau.
Ben, c'est mon appareil photo, c'est mon livre, c'est bien des choses, ouais. Ces petites bêtes-là. 7 février, c'est également la journée mondiale, cette fois au singulier, pour un Internet plus sûr, sachant que Internet peut être une source d'information, de divertissement. Mais également source de contenu douteux, raciste, on peut trouver des propos incitants à la haine, exactement. Il y a question également de diffamation, de pédophilie, de pornographie, de fraude, de vol d'identité. Bref, il faut être prudent.
Il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein?
Absolument. 1752, 7 février, première interdiction de l'encyclopédie. Parce qu'on sait tous que le savoir, c'est le pouvoir, et on ne voulait pas que les gens aient de la puissance. Alors, interdisons l'encyclopédie, 1752. 1758, création par le gouverneur en conseil de la première législature du Conseil anglais au Canada, celle de la Nouvelle-Écosse. 1914, 7 février, sortie du court-métrage « Charlot est content de lui » avec Charlie Chaplin, premier film où on découvre le personnage de Charlot. 1947, les communautés juives et arabes rejettent un plan britannique de partage de la Palestine. 1964, aux Jeux olympiques d'Innsbruck, le Canada gagne la médaille d'or au bobsleigh à 4.
Innsbruck,
merci. Il manquait des trémas, je crois, ça, le U.
Ça se peut.
1964, toujours, les Beatles arrivent à New York. 1971, par 65% des voix, les Suisses accordent aux Suisses le droit de vote au niveau fédéral. 1971, c'est donc après le droit de vote aux femmes au Québec, chose quand même assez rare. 1984, cette fois, l'astronaute américain Bruce McCandless devient le premier homme à se déplacer librement dans l'espace sans aucune attache à la navette Challenger. C'est quelque chose qui, personnellement, même si je ne suis pas apte à aller dans l'espace, me ferait quand même assez peur de ne pas avoir de part d'attache et de...
Ouf.
Ça peut... Il y a eu des films catastrophes où on voit ça, l'astronaute avec George Clooney et Sandra Bullock. Exactement.
Mm-hmm. On cherche le titre, par exemple.
Il y en a eu tellement de films qui parlent de l'espace dans ces dernières années. On ne les nommera pas tous. 1992, signature du traité de Maastricht. 1997, le ramadan s'achève en Algérie par le meurtre de 24 civils. Au cours de ce mois de jeûne, 350 personnes ont été tuées. Maintenant, 2010, le Costa Rica élit sa première femme présidente, Laura Chinchilla. Et 2014, c'était il y a 4 ans aujourd'hui, et donc on va avoir un événement semblable qui va se passer très prochainement, cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Sochi, en Russie.
Allez-vous suivre ça, Jean-Sébastien?
Oui, absolument. 7 février, c'est l'anniversaire de naissance du romancier anglais Charles Dickens, né en 1812. également de la chanteuse Juliette Gréco, née en 1927.
Qu'on appelle Jujube, qui est toujours vivante.
Et 1894, du créateur du saxophone, le belge Adolphe Sax.
Le film, c'est Gravity ou Gravité, avec Sandra Bullock et le beau George Clooney.
Merci, Hélène.
De la presse aujourd'hui, la chronique de Rima El-Khoury, un mort, une vidéo et mille questions. La mort de Pierre Coriolan, un homme noir de 58 ans, pauvre et en détresse psychologique, aurait-elle pu être évitée? C'est du moins ce que plaide sa famille qui déposera aujourd'hui une poursuite civile contre la Ville de Montréal et rendra publique la vidéo troublante que la presse a pu voir de l'intervention policière qui a mené à sa mort. Sondage Ipsos, la presse, pas de lune de miel pour Plante. Près de 3 Montréalais sur 5 sont insatisfaits de son administration et la chronique de Patrick Lagacé s'intitule « Il n'y a pas de cours pour devenir mairesse ». Yves Boisvert en Corée du Sud, dans la République de Samsung. Et pause oxygène, courir au chaud sous le 10-30. Pas de lune de miel pour Valérie Plante, hausse de taxes décriée, déneigement jugé décevant. Même s'ils reconnaissent quelques bons coups à leur nouvelle mairesse, les Montréalais se montrent très critiques à l'égard du début de mandat de Valérie Plante. La majorité des répondants à un sondage Ipsos La Presse se disent insatisfaits des 3 premiers mois de son administration à la barre de la métropole. L'insatisfaction est palpable à propos du début du mandat de Valérie Plante. Ainsi, 59,2% des 502 Montréalais joints par Ipsos du 2 au 6 février ont dit être insatisfaits de la performance de la nouvelle administration municipale, tandis que 33,8% sont satisfaits. C'est presque du 2 pour 1 pour l'insatisfaction. Après 3 mois seulement, ce sont des résultats qu'on peut qualifier de décevants. Aussi rapidement, après une élection, c'est plutôt rare de voir cela, constate Sébastien Dallaire, vice-président d'Ipsos. L'âge des répondants influence considérablement leur perception de la performance de la nouvelle mairesse. Ainsi, les Montréalais de 55 ans et plus se montrent particulièrement déçus. Près des 2/3, 63,6% se disent insatisfaits. Les jeunes de 18 à 34 ans sont au contraire plutôt satisfaits de ce début de mandat, 50% contre 36% d'insatisfaits. Les étudiants en enseignement qui en sont à leur 4e et dernier stage estiment qu'ils devraient recevoir une bourse de 576 $ par semaine en guise de compensation pour leur travail en classe. Les futurs enseignants prennent en charge une classe pendant près de 3 mois lors de leur dernier stage. Selon la campagne de revendication et d'action interuniversitaire pour les étudiantes et les étudiants d'éducation en stage, une bourse versée par l'aide financière aux études serait le moyen le plus efficace de rétribuer ces étudiants. La mesure coûterait 20,3 millions annuellement. À la fin de l'an dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, s'était montrée ouverte à étudier la question. Et toujours dans le domaine de l'éducation, les enseignants québécois estiment que le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, ne les écoute pas et qu'il rejette les solutions qui pourraient améliorer leur quotidien, indique un sondage mené par la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, auprès de 900 de ses membres. Les enseignants sondés disent à 86 % ne pas faire confiance au ministre pour qu'il reconnaisse leur autonomie professionnelle. On a un ministre qui n'a pas peur d'aller sur le terrain, mais encore faut-il qu'il fasse quelque chose d'utile pour les profs, qu'il annonce quelque chose qui permette aux profs de voir la lumière au bout du tunnel, dit Sylvain Mallette, président de la FAE, qui représente 34 000 enseignants de la province. La FAE estime que le ministre de l'Éducation a omis de tenir compte de l'avis des enseignants dans les dossiers du Lab École, du cours d'éducation financière, de l'éducation à la sexualité et du projet de loi 105 sur l'organisation et la gouvernance scolaire, notamment. Uber affirme qu'un pirate du Canada est l'une des deux personnes impliquées dans le vol des renseignements de 57 millions d'utilisateurs de l'entreprise de transport en 2016. L'entreprise indique que l'associé de ce pirate en Floride était celui ayant effectivement obtenu les renseignements. Les informations dérobées incluent nom, courriel et numéro de cellulaire. Ces révélations figurent dans une déclaration du directeur de la sécurité de l'entreprise, un sous-comité aux États-Unis responsable de la protection des consommateurs et de la sécurité des données. Environnement, la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons solaires ultraviolets mortels décline au-dessus des régions les plus peuplées de la planète selon les conclusions inattendues d'une étude publiée hier. En 1987, un accord international, le protocole de Montréal, avait été signé pour supprimer progressivement les gaz CFC utilisés dans la réfrigération et les aérosols, responsable du fameux trou dans cette couche gazeuse protégeant la Terre de rayons qui provoquent cancer de la peau et des dégâts oculaires et immunitaires. Grâce à l'élimination progressive des CFC, le trou au-dessus de l'Antarctique et les couches les plus élevées de la stratosphère montrent des signes clairs de rétablissement. Mais l'ozone de la partie inférieure de la stratosphère, 10 à 24 km d'altitude, se désintègre doucement, met en garde cette étude publiée dans la revue Atmospheric Chemistry and Physics. Aux latitudes tropicales et moyennes, la couche d'ozone n'a pas commencé à se remettre. C'est en fait un peu moins bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans, dit William Ball, auteur principal de l'étude. Selon de précédentes études, la couche d'ozone avait décliné à son niveau maximum à la fin du 20e siècle d'environ 5 %. La nouvelle étude estime qu'elle a perdu 0,5 % supplémentaire. Et même si le déclin est moindre qu'au-dessus des pôles avant le protocole de Montréal, les dommages potentiels aux latitudes tropicales et moyennes pourraient être pires qu'aux pôles, car les radiations UV y sont plus intenses et les zones plus peuplées, insiste une autre chercheuse, Joanna Haig, du Grantham Research Institute on Climate Change de Londres. Deux causes possibles, l'étude montre du doigt deux possibles responsables de cette détérioration, les Very Short-Lived Substances, gaz à très courte durée de vie utilisés comme solvant, décapant pour peinture ou dégraissant attaquent l'ozone dans la partie inférieure de la stratosphère. Une récente étude avait indiqué que l'un d'eux, le chlorure de méthylène, avait quasiment doublé dans la stratosphère en 10 ans. Si c'est un problème de VSLS, cela devrait être relativement facile à gérer, dit William Ball. Mais l'autre accusé est le dérèglement climatique.
Deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur, le désir monte.
Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la mort. Seul, tout seul au bout du monde.
Seul, là-haut dans cet hôtel de verre, ça commence. immense comme un fait divers. Je t'ai offert
un verre, j'ai allumé ta cigarette. L'alcool me montait à la tête.
Les yeux dans les yeux,
on a ouvert le feu.
Il y a 6 milliards d'humains sur terre. Et combien de cœurs solitaires.
Pourquoi nous deux? Pourquoi nous et pas eux?
C'est une question de filet.
Question de filet. Ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
C'est une question de filet.
Question de filet.
Dans l'infini universel.
Nos deux vies parallèles.
Parallèles se sont croisées ce soir. Le jour se lève, c'est comme un rêve qui s'achève.
Mais moi, j'ai envie de te revoir.
Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet qui reprennent cette pièce à l'origine de Fabienne Thibault et Richard Cochiante, bien sûr, écrite par Luc Plamondon. C'est tiré de l'album Hommage à Plamondon qui s'intitule Signé Plamondon, que Brigitte Boisjoli a sorti l'an dernier.
À la une du Devoir de ce mercredi 7 février, surcharge de travail, Barrette promet de mieux prendre soin des infirmières. On voit une photo sous laquelle est écrit « Des infirmières ont manifesté mardi à Montréal, quelques heures avant que leur représentante syndicale rencontre le ministre de la Santé ». Abus de confiance, le jury a cru Tony Accurso. Plusieurs causes qui découlent de la commission Charbonneau et des enquêtes de l'UPAC tardent à connaître leur dénouement. Jeux olympiques, éviter le côté sombre des réseaux sociaux. Plusieurs athlètes font le choix de se débrancher pour la durée des Olympiques. Montréal met un frein au trafic sur le Mont-Royal. La circulation de transit ne sera plus permise au sommet. Formation professionnelle, des collèges privés pris en faute à répétition et bourse, les marchés ont repris mardi une partie des pertes de la veille. D'ordinaire à couteau tiré avec le principal syndicat d'infirmières au Québec, la Fédération interprofessionnelle de la santé, le ministre de la Santé Gaétan Barrette leur a tendu la main à l'occasion de la rentrée parlementaire. « Depuis mon arrivée en poste, je suis extrêmement sensible à l'enjeu que soulèvent les infirmières », a déclaré M. Barrette à l'entrée du caucus des députés libéraux mardi. Lors de la période de questions, M. Barrette a en outre souligné que sa propre mère était infirmière. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère d'avoir réussi à faire face à tout ça. Elle était sur des quarts de travail, des shifts, comme on dit. Alors, je le comprends et je les ai mises en place, les choses. Ça ne va pas assez vite, on va accélérer. M. Barrett tenait ses propos quelques heures après la publication d'un sondage démontrant que 61 % des Québécois le jugeaient intransigeant et arrogant et que 70 % estimaient que la situation du système de santé s'était dégradée en 3 ans. Les conditions de travail des infirmières font les manchettes depuis le cri du cœur lancé par la jeune Émilie Ricard la semaine dernière. Épuisée, cette jeune employée d'un CHSLD racontait comment elle devait prendre soin seule d'entre 70 et 76 patients durant son quart de travail tout en étant forcée de faire des heures supplémentaires. Elle interpellait le ministre Barrett en lui demandant comment il pouvait affirmer que la réforme du système de santé était un succès. Le ministre Barrett n'a pas voulu pointer de responsable pour les retards à appliquer les changements, mais s'est engagé à fournir plus de réponses lors d'une nouvelle rencontre avec la FIC dans 2 semaines. Satisfaite de la rencontre, Mme Bédard a dit que la balle était dans le camp du gouvernement. Mme Bédard, je parle ici de Nancy, la nouvelle présidente de la FIC. Soupçonné d'avoir offert des voyages et de l'argent à l'ancien maire de Mascouche, Tony Accurso est finalement sorti mardi en homme libre du palais de justice de Joliette au terme de son procès. Près de 6 ans après son arrestation, Tony Accurso a été acquitté de l'accusation d'abus de confiance qui pesait contre lui dans le dossier de Mascouche. Après une courte période de délibération, le jury a jugé que les séjours sur son luxueux bateau et le chèque de 300 000 $ offert par M. Accurso à l'ex-maire de Mascouche, Richard Marcotte, n'avait pas pour but d'obtenir des contrats de la ville pour son entreprise. Samsung offrira un cadeau de bienvenue typiquement coréen aux athlètes qui participeront à partir de vendredi aux Jeux de Pyeongchang. Tous les sportifs recevront un téléphone neuf pour leur permettre de rester connectés, de capter et de partager certains des moments les plus mémorables de leur vie. Certains d'entre eux ne le sortiront cependant pas de sa boîte, conscients que les réseaux sociaux peuvent à la fois les motiver et leur nuire. C'est le cas de la patineuse québécoise Marianne Saint-Gelais qui a annoncé la semaine dernière sur son compte Instagram qu'elle ne toucherait plus aux réseaux sociaux jusqu'à la fin des Jeux olympiques. « Même si je ne peux pas vous lire et même si je ne peux pas voir ce que vous me dites, l'amour et le soutien, je le sens à 100 %», a-t-elle pris la peine de souligner à ses 11 000 abonnés. Il y a 4 ans, aux Jeux de Sochi, des commentaires reçus à la suite d'une performance en deçà des attentes l'ont ébranlée et elle ne veut pas que ça se reproduise. La première ministre britannique Theresa May a rendu un vibrant hommage mardi aux militantes héroïques qui ont ouvert la voie au droit de vote des femmes il y a 100 ans au Royaume-Uni tout en dénonçant une hostilité croissante dans le débat public actuel. Le 6 février 1918, le Parlement britannique votait la loi de 1918 sur la représentation populaire permettant à certaines femmes de plus de 30 ans à voter. Il fallut toutefois attendre 1928 pour qu'elle puisse le faire aux mêmes conditions que les hommes dès 21 ans. Theresa May a célébré cet anniversaire à Manchester, où a vu le jour le mouvement des suffragettes saluant une étape importante et irréversible vers la création d'une démocratie réellement universelle. Mais malgré les avancées enregistrées dans la reconnaissance des droits des femmes et de minorités depuis 1918, elle a mis en garde contre le risque de voir le débat public actuel au Royaume-Uni devenir très hostile, avec des échanges tombant de plus en plus souvent dans le tribalisme et la rancœur. Theresa May, la deuxième femme à la tête d'un gouvernement britannique après Margaret Thatcher, a annoncé un plan pour lutter contre les insultes et les intimidations en ligne visant de façon disproportionnée les candidats politiques qui sont des femmes, des Noirs issus de minorités ethniques ou de la communauté LGBT. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, a décidé de ne pas se représenter à son procès organisé à Bruxelles sur une autre affaire anéantissant les minces espoirs qu'il s'exprime enfin sur les faits. L'annonce, qui est une demi-surprise, est venue mardi du président du tribunal, au lendemain d'une première journée de procès marquée par la diatribe courte mais virulente de Salah Abdeslam contre la justice et les médias. Le procès va donc se poursuivre sans lui jeudi, avec comme point d'orgue les plaidoiries des avocats de la défense. Avec un complice, le Tunisien Sofiane Ayari, 24 ans, Salah Abdeslam, français d'origine marocaine, âgé de 28 ans, est jugé pour avoir tiré sur des policiers à Bruxelles à la fin de sa cavale le 15 mars 2016. Le gouvernement danois de centre-droit a annoncé mardi son intention d'interdire le port du voile intégral islamique, burqa ou niqab, dans l'espace public. Cela n'est pas compatible avec les valeurs de la société danoise et il est irrespectueux vis-à-vis de la société de dissimuler son visage lors d'un échange dans l'espace public, a déclaré le ministre de la Justice Søren Pape Poulsen. Et les ventes résiduelles à Montréal ont progressé de 30 % le mois dernier par rapport à l'an dernier, ce qui a permis au marché de connaître son meilleur mois de janvier en 8 ans, a indiqué mardi la Chambre immobilière du Grand Montréal. Le quotidien des quotidiens, ça se poursuit dans un instant avec le Journal de Montréal.
It's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Ooh. You came along and made my life a song. One lucky day, you came along just in time while I was searching. You see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Paul McCartney et la pièce New tirée de l'album du même nom sur Canal M.
Ça s'en vient, les Olympiques, et ça paraît, le journal aux Olympiques. C'est la une du Journal de Montréal de ce 7 février 2018. Harvey, Alex, de son prénom, a des jeux propres. Il s'attend à des jeux propres. Le Canadien devrait-il gagner ou perdre ses matchs? C'est une chronique de Marc Defoy. 14 millions de dollars partis en fumée, Québec se fait avoir dans un projet d'auto électrique. Mystérieuse hausse du mardi du prix de l'essence, CA Québec a déjà dénoncé une situation semblable à la Régie de l'énergie. Les automobilistes montréalais devront éviter de faire le plein les mardis si les pétrolières continuent à tout augmenter le prix à la pompe le même jour pour la cinquième fois de suite. Ce qui est troublant dans le marché de Montréal, c'est que tout augmente et descend au même rythme dans un marché qui devrait être normalement ultra compétitif, observe Annie Gauthier, porte-parole de CA Québec, qui a déjà dénoncé cette pratique à la Régie de l'énergie. Depuis l'automne, les pétrolières haussent de 10, 12 ou même 13 cents le litre le mardi et dégonflent ensuite le prix dans la semaine, selon Mme Gauthier. Ces cinq dernières semaines ont été particulièrement frappantes. Jointes par le Journal de Montréal, les pétrolières Ultramar, Petro-Canada, Sonic et même la Régie de l'énergie ont toutefois refusé de commenter ces hausses du mardi, entre guillemets. Un gérant d'une station-service de la Rive-Sud a déclaré qu'il ne faisait que suivre les directives de sa maison mère. « On a perdu un peu de notre naïveté depuis le cartel du pain. On sait que ça va être le cartel du chou-fleur et après le cartel de la balayeuse », lance à la blague François Delorme, professeur à l'Université de Sherbrooke. L'ancien économiste en chef à Industrie Canada dit avoir entendu ce type d'histoire-là quand il avait sous sa responsabilité le Bureau de la concurrence. Selon lui, il est très difficile d'amasser assez de preuves pour poursuivre les fautifs en cours. La présidente de l'Association des distributeurs d'énergie du Québec, Sonia Marcotte, déclare que ces augmentations sont peut-être influencées par le prix minimum de la Régie de l'énergie qui entre en vigueur le mardi. Des millions en frais de retard, le gouvernement fédéral croule sous les factures de cellulaire et est incapable de les payer à temps. Le fédéral a payé plus de 4,7 millions de dollars en frais de retard pour ses services de téléphonie depuis 6 ans, tout simplement parce qu'il est incapable de s'acquitter de ses factures à temps. Les retards de paiement sont en grande partie attribuables au volume de factures mensuelles et au temps requis pour effectuer le contrôle approprié et corriger les erreurs possibles avant de faire les paiements, explique Frédérica Dupuis, une porte-parole de Services partagés Canada, ministère responsable. Le fédéral a créé le ministère des Services partagés en 2011 pour éviter ce genre de ratés liés à l'informatique. 6 ans plus tard, malgré une amélioration, le gaspillage persiste en matière de traitement des factures de cellulaire. Ainsi, uniquement pour l'année 2017, les retards de paiement ont coûté aux contribuables canadiens pas moins de 330 000 $, soit 0,02 % de la somme totale des factures, prend soin de souligner une porte-parole de Services partagés Canada. À sa création il y a 6 ans, Services partagés Canada, SPC, traitait chaque mois quelques 75 000 factures pour divers services téléphoniques. Le nombre a été réduit à 9 000. Mais la trentaine de fonctionnaires responsables de s'acquitter de toutes les factures du ministère sont visiblement débordés, de sorte que les frais de retard continuent de s'accumuler. Plus de 2 ans après leur élection, les libéraux blâment l'ancien gouvernement conservateur pour l'incapacité du fédéral à traiter les factures de cellulaire à temps, entraînant des centaines de milliers de dollars en frais de retard. Idéalement, évidemment, nous ne voudrions pas avoir à payer ces frais. Mais la réalité, c'est que l'ancien gouvernement n'a pas embauché assez de personnel à Services partagés Canada, soutient la ministre des Services publics et de l'approvisionnement, Carla Cultural. En en route vers 500 plaintes, infestations de punaises, moisissures, infiltrations d'eau, pourriture. Les logements insalubres sont en hausse au Québec alors que le nombre de recours devant la Régie du logement a atteint un record en 2017. Les propriétaires doivent faire des demandes en raison d'encombrement des lieux et de mauvais usage des logements par les locataires, explique le président du regroupement des propriétaires d'habitations locatives, Martin Messier. Toutefois, de nombreux locataires sont aussi victimes du laxisme de propriétaires qui laissent les bâtiments en état de décrépitude. Selon le RPHL, donc le regroupement des propriétaires d'habitations locatives, la majorité des problèmes sont causés par des locataires négligents ou qui ont de mauvaises habitudes de vie. C'est fini les autos sur la voie Camillien-Houde. On pourra se garer sur le Mont-Royal, mais plus utiliser la route comme transit. Montréal fermera la voie Camillien-Houde aux automobilistes dès ce printemps, quelques mois après la mort tragique d'un jeune cycliste sur ce chemin qui traverse le Mont-Royal. En octobre, Clément Ouimet est mort de ses blessures à la suite d'une collision avec une voiture qui tentait de faire un demi-tour interdit sur la voie Camillien-Houde. Ça faisait 10 ans qu'on en parlait, que cet aménagement était à changer. C'est dommage que ça prenne un mort pour qu'on bouge, dit Suzanne Larrault, PDG de Vélo-Québec. Justin Trudeau cité partout dans le monde, ses propos concernant le mot « mankind » ont été mal accueillis. Les propos du premier ministre canadien Justin Trudeau concernant le terme « mankind » se sont attirés l'attention de médias partout autour du globe, mais surtout des moqueries. Plusieurs médias ont rapporté que le premier ministre avait été critiqué pour avoir été exagérément féministe et trop politiquement correct. Le Washington Post, le Herald Sun, la BBC font partie du lot, tout comme des médias en Italie, en Allemagne, en Inde et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, Richard Martineau en parle ainsi que Mathieu Bock-Côté. Lors d'une assemblée publique à Edmonton jeudi dernier, M. Trudeau a corrigé une citoyenne pour son utilisation du terme « mankind », littéralement « race de l'homme ». Nous préférons dire « peoplekind », littéralement « race des personnes », pas nécessairement « mankind », parce que c'est plus inclusif, a-t-il lancé en coupant la parole à la dame. Pour contrer les problèmes criants de circulation sur la couronne nord de Montréal, 18 maires ont décidé d'organiser un forum sur la mobilité et le transport collectif. C'est ce qu'a annoncé le maire de Laval, Marc Demers, hier en conférence de presse. Ainsi, les villes de Laval, Terrebonne, Saint-Jérôme et Mirabel, de même que les 14 villes des MRC, Thérèse de Blainville et de Montagne, participeront à ce forum qui se tiendra le 23 avril prochain. Ils soumettront par la suite leur liste de priorités au gouvernement du Québec pour contrer les embouteillages. Le groupe compte profiter des prochaines élections provinciales pour se faire entendre. Pressé de questions sur les solutions qui pourraient se dégager de ce forum, le maire de Laval, Marc Demers, a admis que le transport en commun serait un élément clé du forum. Québec perd 14 millions dans un projet. Peugeot-Citroën ne construira pas une usine d'assemblage en sol québécois. Le groupe français Peugeot-Citroën, PSA, abandonne son projet de construire une usine d'assemblage de voitures électriques en sol québécois. Investissement Québec et Hydro-Québec ont perdu dans l'aventure plus de 14 millions de dollars, a appris le journal. La co-entreprise Arion Technologies Automobile, créée en mars 2016 pour mener une étude de faisabilité sur la construction d'une usine d'assemblage de voitures électriques haute performance au Québec, n'existe déjà plus. Arion Technologies a été dissoute avant les fêtes. Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, a englouti 10 millions dans le projet. Hydro-Québec, par le biais de sa filiale Industech, a de son côté misé et perdu 4 millions. Le conseil d'administration d'Arion Technologies a décidé de mettre un terme à ce projet en raison de modifications au projet initial qui auraient fait augmenter substantiellement le coût et les risques financiers pour les investisseurs, a indiqué au journal le porte-parole du ministère de l'Économie, Jean-Pierre Dauteuil. Et un séisme fait plus de 200 blessés à Taïwan. Des passants et des secouristes observent un immeuble incliné après un tremblement de terre dans la ville de Hualien à Taïwan. La photo est vraiment impressionnante. On dirait la tour de Pise, mais non, ce n'est pas cela. C'est un building qui a été victime du tremblement de terre. Deux personnes ont été tuées et plus de 200 blessés, certaines grièvement dans un séisme de magnitude 6,4. Qui a frappé hier soir l'est de Taïwan. Un hôtel et un immeuble d'habitation ont été les bâtiments les plus endommagés. Dans la ville portuaire de Hualien, un haut lieu touristique de cette île, cinq autres bâtiments, dont un hôpital, ont également subi des dégâts.
Dans les tranchées, accompagnées des voix désossées, de bébés réchauffés, de cadavres déchaussés, les jambes en l'air, on joue à la guerre de père en fils. Du trou chaud au trou froid, tout est hurlement dans le vent, tout est brûlement et hurle sang, turlutant en tout crachant. Gigot gigue sur une patte faisant le smat de père en fils. Prends ton pays par la ceinture, prends ton pays par sa blessure et swing la baquette dans le fond de la boîte à bombes, les mains sur les hanches, le doigt sur la clenche. En oui, un autre oiseau, en oui. Et quand ça ne tourne pas rond ou quand ça tourne trop rond, on arrondit les coins avec un ouzi, on fait les foins avec du feu, on brûle le ciel dans nos yeux, on ferme la ferme pour cause de Dieu, on cherche la sagesse en tuant les vieux, et on donne un fusil à un enfant, et ça lui fait comme un gars. Et toutes les dents de l'Amérique sont noires et blanches comme un piano mécanique qui vous mord les doigts, un piano qui joue un blues. L'enfant joue avec un douze sur la pelouse rouge de la Maison Blanche. Tout est hurlement dans le vent, tout est brûlement et hurle sang, turlutant en tout crachant, gigot gigue sur une patte faisant le smat. Père en fils, père en fils,
on vient d'entendre Chloé Sainte-Marie et la pièce Hurle sang.
Les journaux régionaux dans le Nouvelliste, Mathieu Lamotte signe un texte intitulé « Ça s'est fait sur le coup », une citation. Yann Auger, ce déneigeur qui a joué les héros lundi après-midi, avoue avoir agi de façon instinctive lorsqu'il a décidé de se servir de la souffleuse dont est muni son tracteur de déneigement afin de recouvrir un véhicule utilitaire sport qui était ravagé par les flammes. Sans l'intervention de M. Auger, l'incendie qui s'est déclaré tout près des pompes à essence de la station-service Éco du boulevard Sainte-Madeleine dans le secteur Cap de la Madeleine à Trois-Rivières aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Bien qu'il reconnaisse que son geste a fort probablement eu pour effet que la station-service a été épargnée, le principal intéressé soutient qu'il n'avait d'autre choix que d'agir de la sorte. Le déneigeur venait tout juste de faire le plein d'essence avec son tracteur à la fin de sa journée de travail lorsqu'il a constaté que de la fumée se dégageait de l'une des ailes du VUS de marque BMW. Il est alors allé à la rencontre du propriétaire du véhicule qui venait de sortir afin de l'avertir. C'est à ce moment que les flammes ont fait leur apparition et ont pris rapidement de l'ampleur. Selon M. Auger, les fenêtres du véhicule en feu ont également éclaté à ce moment. Ça s'est fait sur le coup. Quand j'ai vu le feu augmenter, j'ai eu le réflexe à recanter l'employé de l'entreprise déneigement, Jocelyn Trudel, lorsque le nouvelliste s'est entretenu avec lui mardi avant midi. Par la suite, les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pris le contrôle de la situation. Le propriétaire de la station-service, Marco Gelina, se dit très reconnaissant envers le déneigeur. Sans son intervention, les dommages auraient pu être beaucoup plus considérables et les conséquences beaucoup plus graves. Rappelons que personne n'a été blessé ou n'a été incommodé par la fumée. Par contre, le véhicule touché est une perte totale. Je n'ai pas eu l'occasion de le croiser encore, mais quand je le verrai, je le remercierai grandement. Comme je suis aussi le propriétaire du restaurant situé à côté, je lui offrirai un repas. C'est la moindre des choses, car ça aurait pu prendre une tournure beaucoup plus grave, a mentionné M. Gelina. Une vidéo captée par un passant permet d'ailleurs de constater l'intensité du brasier avant l'intervention du déneigeur. En fin d'après-midi mardi, cette vidéo avait été vue plus de 23 000 fois sur le réseau social Facebook. Dans le droit, Patrick Duquette, chef-d'œuvre d'aérodynamique. Quand vous regarderez nos vedettes locales, Ivani Blondin et Vincent Dehaître, patiner sur longue piste aux Jeux olympiques de Pyeongchang, observez bien leur combinaison moulante. Dites-vous que ces vêtements sont de véritables chefs-d'œuvre d'aérodynamique testés même à Ottawa, ici même à Ottawa, dans la soufflerie du Conseil national de recherche du Canada. En patinage de vitesse ou en ski alpin, un écart de quelques centièmes de seconde peut faire la différence entre une médaille olympique et une performance ordinaire. Voilà pourquoi des scientifiques canadiens travaillent depuis déjà une dizaine d'années à concevoir des combinaisons sportives de plus en plus aérodynamiques dans le cadre du programme fédéral À nous le podium. Tout comme on le ferait pour des maquettes d'avions, les combinaisons olympiques sont testées en soufflerie sur des mannequins grandeur nature dans les laboratoires du CNRC, donc le Conseil national de recherche du Canada, chemin Montréal. En jouant avec différents types de tissus qu'on placera à divers emplacements du corps de l'athlète, on cherche la combinaison optimale d'un point de vue aérodynamique. Parfois, juste de changer un rembourrage ou l'emplacement d'une couture peut faire une différence, explique Annick Dauteuil, chercheuse en aérodynamique des corps non profilés au Conseil national de recherche du Canada. Le degré de peaufinement est tel qu'une couturière est présente lors des tests en soufflerie pour déplacer une couture au besoin. La combinaison portée par les patineurs de vitesse à Pyeongchang comportera 3 ou 4 sortes de tissus différents, dit-elle. Ainsi, le capuchon sera fait d'un tissu lisse et luisant. Par contre, les flancs et la partie inférieure des jambes sont composés d'un textile poreux et rugueux. Ce savant agencement de tissus n'est pas le fruit du hasard. Il a été décidé stratégiquement au terme de batteries de tests faites dans les labos du CNRC. On travaille avec Apogée, le fournisseur officiel de l'équipe canadienne de patinage longue piste. Eux vont voir des fournisseurs de tissus, puis ils fabriquent des combinaisons qu'on teste ensuite sur des mannequins en soufflerie, explique Annick Dauteuil. Les tests en soufflerie impliquent aussi les athlètes eux-mêmes. Des skieurs, des patineurs et des lugeurs sont venus y mettre à l'épreuve leur position de recherche de vitesse. Dans Dans le soleil, Marc Allard, présumée fraudeuse de resto épinglée. Swan Fan et Tony Tanous espéraient que leur publication sur Facebook allait permettre d'épingler une femme soupçonnée d'avoir fraudé leur restaurant à Québec durant l'automne. Ils savent maintenant que leur tactique a fonctionné. En octobre, une femme bien vêtue qui se disait professeure à l'Université Laval s'est présentée au comptoir du Sushi To Go sur la rue Saint-Jean. Elle prétendait s'être étouffée avec un morceau de pellicule plastique retrouvé dans ses sushis et avoir failli mourir. La femme disait avoir pris l'assiette de luxe d'une valeur de 75 $ et exigeait un remboursement. Sinon, elle menaçait de porter plainte de faire une mauvaise réputation au resto sur les réseaux sociaux. Elle a obtenu les 75 $ qu'elle demandait. Mais lorsque Mme Fan, la propriétaire du Sushi To Go, est revenue au restaurant, elle n'a vu aucune facture pour une assiette de luxe et s'est dit qu'elle avait été fraudée. Elle a publié la description de l'escroquerie sur Facebook. Monsieur Thanos, qui est propriétaire de la galette libanaise sur l'avenue Maguire, a alors publié une vidéo de la suspecte captée par ses caméras de surveillance. Il a aussi transmis un fichier pour encourager les restaurateurs à faire une plainte à la police. Une centaine d'entre eux à Québec et quelques 200 dans le reste de la province ont écrit à Tony Tanous pour lui dire qu'ils avaient été eux aussi victimes de la présumée fraudeuse. « Ça a vraiment fait boule de neige », dit-il. Le stratagème aurait été à peu près toujours le même, un prétendu étouffement avec une pellicule de plastique. Les sommes que la suspecte réclamait auraient oscillé entre 30 $ et 150 $. Le service de police de la Ville de Québec a enregistré à lui seul 18 plaintes. Un mandat d'arrestation a été lancé et la suspecte a été arrêtée par la police de Longueuil le 31 janvier. La fraudeuse présumée, Nancy Demers, 52 ans, est détenue depuis. Elle comparaîtra mercredi au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de fraude. Et dans la tribune, Jean-François Gagnon, Magog, un prêtre de 35 ans, entre en poste. Un vent de fraîcheur semble souffler sur les paroisses catholiques de Magog depuis l'entrée en poste du prêtre Charles Vallière, qui est âgé de 35 ans seulement. Originaire de Granby et longtemps associé à la famille Marie-Jeunesse, Charles Vallière a commencé à œuvrer à Magog en novembre dernier. Il agit à titre de vicaire et célèbre quelques messes toutes les semaines. Le jeune prêtre se montre heureux d'avoir été transféré à Magog par l'archevêque Luc Cyr. « Je savais qu'il y avait des initiatives de nouvelle évangélisation qui germaient ici. C'était donc intéressant pour moi. » D'ailleurs, on lui a rapidement demandé de se charger des nouvelles initiatives d'évangélisation et des dossiers jeunesse locaux. Il a évidemment accueilli ces deux missions à bras ouverts. « Il faut que ça bouge, sinon je vais déprimer », lance-t-il. En outre, Charles Vallière mise beaucoup sur les soirées de louanges qui ont vu le jour en sol magogois ces derniers mois. Cette activité qui se déroule au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco s'adresse principalement aux plus jeunes. On a de la musique faite par des musiciens locaux avec guitare électrique et batterie lors des soirées de louanges, révèle-t-il. On organise ça un samedi soir par mois pour le moment, mais on aimerait que ça devienne de plus en plus fréquent. En parallèle, un dimanche par mois, une messe aux accents pop-rock se tient à l'église Saint-Jean-Bosco. Charles Vallière souhaite sans surprise que la fréquence de ces messes augmente elle aussi. On va se donner un budget pour améliorer la qualité sonore dans l'église et ajouter certains éclairages pour que ces messes soient encore plus plaisantes. Également, on va travailler sur l'accueil des gens pour le rendre plus chaleureux et avoir un service de garderie pour les familles. Charles Vallière estime que le message de Jésus-Christ demeure tout à fait pertinent, même en 2018. Par contre, il concède que l'Église catholique aurait avantage à se moderniser au Québec. « Quand une messe ou une homélie est peu intéressante, c'est long pour les gens qui écoutent », aboutit-il sans aucune difficulté. Les gens ont soif de vie spirituelle, quoi qu'on en dise. Mais il est peut-être temps de modifier notre approche. Le contenu est toujours bon, tandis que le contenant l'est moins. Avant de devenir prêtre, Charles Vallière a connu une adolescence marquée par la délinquance et la fête. « Je n'étais plus bien dans ma peau à 19 ans. J'avais un mal-être profond. Je me demandais quoi faire de ma vie. J'ai rencontré Jésus et ça m'a transformé. » « Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens et c'est Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir en ce mercredi 7 février 2018. Restez des nôtres pour la suite de l'émission avec, entre autres, les actualités culturelles du jour.
Sur le dos d'un requin, j'ai beaucoup de chagrin, le rivage est si loin. Un homme à la mer, pour chaque fille à mer. Un homme à la mer, pour chaque fille à mer. Un homme à la mer, pour chaque fille à mer.
C'était Stéphie Choc et je ne pense pas vous faire une grande surprise en vous apprenant que le titre de cette pièce, c'est « Un homme à la mer ».
Actualité culturelle et dans le Journal de Montréal, on apprend que Radio-Canada coupe dans sa grille horaire des émissions telles Marina, Entrée principale et Indice UV sont affectées. Entrée principale avec André Robitaille passera de 5 à 4 rendez-vous par semaine. Radio-Canada a commandé 60 émissions originales de Marina au lieu de 110. Animée par Anne-Marie Wintenshaw et Mario Tessier, Indice UV ne reviendra pas pour une deuxième saison cet été. Selon différentes sources, le montant à éponger s'élève à 10 millions de dollars, une somme toutefois démentie par Radio-Canada. Pour atteindre ce chiffre, le diffuseur public a choisi d'amputer sa programmation de jour. À Radio-Canada, on attribue ces changements à une réaffectation des ressources liées au virage numérique amorcé en 2014. Radio-Canada dit vouloir consacrer des budgets plus importants au développement de contenus qu'on retrouvera sur Ici Tout TV, Ici Art TV et Ici Radio-Canada Télé, particulièrement en fiction, une nouvelle qui plaira probablement aux amateurs de séries dramatiques. La disparition d'indices UV après une seule saison confirme les difficultés qu'éprouve Radio-Canada à trouver un magazine de service estival durable. La déception a été vive dans l'équipe quand Radio-Canada a annoncé qu'elle tirait la plogue puisque, selon nos informations, la direction semblait satisfaite des résultats quelques mois plus tôt. La société d'État cherche-t-elle encore une fois à remplacer son magazine estival? Aucune information n'est disponible à ce jour. Arcade Fire est en lice dans les catégories du meilleur groupe, de la meilleure chanson, du meilleur album et du meilleur album alternatif au Gala des prix Juno à Vancouver, diffusé le 25 mars à CBC. La catégorie de l'album francophone de l'année comprend L'étoile thoracique de Claude Pelgag, La science du cœur de Pierre Lapointe, Almana de Patrice Michaud, Nos Eldorado d'Alex Nevsky et Paloma de Daniel Bélanger. La Québécoise Charlotte Cardin est nommée dans deux catégories, Révélation de l'année et Auteur-compositeur de l'année. Le film 120 battements par minute, grande fresque sur les années SIDA en France, a été consacré meilleur film lundi soir lors des 23e prix Lumière de la presse internationale en poste à Paris. Le film de Robin Campillo s'est imposé dans cinq autres catégories, meilleur réalisateur et meilleur scénariste, meilleur acteur, révélation masculine et meilleure musique. Pauline Julien est morte il y a 20 ans cette année et les Francofolies lui rendront hommage dans un spectacle qui réunira une foule de jeunes femmes artistes, Claude Pelgag, Sophie Cadieux et Queen K, entre autres. Les Francofolies ont également annoncé hier une nouvelle série de spectacles qui seront présentés en juin. De France nous viendra la nouvelle sensation Eddie de Préto, alors que la jeune génération québécoise sera représentée par Andréane Amalette et Émile Bilodeau. Il y aura aussi une reprise du spectacle Brel symphonique ainsi qu'un spectacle de Claude Dubois. Les billets seront en vente vendredi à midi. De retour à Montréal, quelques mois à peine après avoir exécuté le concerto pour la main gauche de Ravel avec l'Orchestre métropolitain, le pianiste français Alexandre Tarot offre un récital dont la matière est traversée par 250 ans de musique. De Domenico Scarlatti, il jouera 7 sonates. De Sergei Rachmaninov, il exécutera 5 morceaux de Fantaisie, opus 3 de Maurice Ravel. Il interprétera bien Miroir de Gustave Mahler. Il offrira son adaptation de l'Adagietto tirée de la symphonie numéro 5 à la salle Bourgie le mardi 20 février à 19h30. Enceinte d'un deuxième enfant, la violoniste américaine Hilary Hahn s'est vue dans l'obligation d'annuler sa présence au concert Immensité des paysages nordiques prévu le 25 avril à la Maison symphonique et présenté dans le cadre du Festival nordique. Violoniste de renommée mondiale, l'Italien d'origine allemande Augustin Adelich la remplacera et le programme du concert demeurera identique. Le fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, Guy Laliberté, a remis $1 million à la Fondation des Sept Doigts de la Main qui lançait hier sa campagne de financement visant à amasser 5 millions sur 5 ans. Les Sept Doigts, ce sont les enfants du Cirque du Soleil qui sont partis à l'aventure et qui mènent depuis 15 ans un projet fantastique, a dit Guy Laliberté, qui agit à titre de parrain d'honneur de la Fondation. Je ne peux pas m'empêcher de sentir de la fierté en les voyant. Ils sont un gros coup de cœur dont j'admire les défis créatifs. En les parrainant, ça montre l'amour que j'ai pour cette petite gang-là. La chronique d'Hugo Dumas, virage moins trash pour V, des émissions au contenu plus osé, voire trash, comme Célibataire et nu, Beach Club, Les Cultes ou Barmaid, ont causé beaucoup de tort à la réputation du groupe V Media qui exploite les chaînes V, Max et Musique Plus. Rapidement et peut-être injustement, une étiquette peu fréquentable a été appliquée aux trois stations exploitées par Maxime Rémillard. Les gros annonceurs les plus payants ont déguerpi. Les marques craignaient d'être associées à des émissions aux propos trop vulgaires et potentiellement controversés pour leurs clients. Avec le renvoi d'Éric Salvaille, la tête d'affiche la plus rassembleuse de V, ce fut la catastrophe pour les ventes publicitaires. Le réseau a perdu beaucoup d'argent depuis la mi-octobre. Dans le but de redorer son image d'entreprise, V planche actuellement sur un grand repositionnement plus familial, moins olé-olé, selon plusieurs sources ayant été informées de ces changements en ébullition. Par exemple, des épisodes d'un souper presque parfait déjà monté ont dû être nettoyés de propos maintenant jugés trop posés au goût de V. L'embauche de l'humoriste Stéphane Rousseau, qui pilotera le show à Rousseau à partir du lundi 5 mars à 22h, s'inscrit dans le virage plus propre que négocie V. Rousseau est un visage rassurant pour les annonceurs en raison de sa notoriété et de sa popularité déjà bien établie. Même chose pour le retour de Taxi payant d'Alexandre Barrette. Ce quiz roulant attire un public de 7 à 77 ans et son contenu n'a pas été filtré. Ce qui a fonctionné très fort chez V, c'est le 5 à 7 en famille. Mais ils se sont éloignés de ça depuis quelques saisons, résume un producteur qui brasse des affaires avec V. En prévision de la rentrée de septembre, V espère attirer de gros noms ou des transfuges de TVA et Radio-Canada, me dit-on. Toutes les boîtes de production en ville soumettent présentement des projets tests d'émissions qui s'inscrivent dans le nouvel ADN moins testostéroné de V. L'émission « Danser pour danser » orchestrée par Julie Snyder projette exactement ce que V désire appliquer à l'ensemble de sa grille, soit de la jeunesse, un esprit positif et un rendu nickel en ondes.
Winehouse et la pièce Rehab.
Des images spectaculaires et rares de la neige à Paris, plus de 700 km de bouchons autour de Paris, des centaines de poids lourds bloqués, la Tour Eiffel fermée. La neige affectait hier soir la capitale et la moitié nord de la France. L'épisode neigeux, notable et durable, rend la circulation difficile sur un axe allant des pays de la Loire et du Poitou aux Ardennes en passant par la région parisienne selon Météo France. À Paris et dans ses environs, un pic de 739 km de bouchons a été enregistré peu avant 19h30. La situation risquait de devenir critique dans la nuit d'hier avec la chute des températures jusqu'à moins 10 degrés. Ce premier épisode neigeux remarquable de la saison, après un mois de janvier exceptionnellement doux, a tout de même fait le bonheur de certains Parisiens qui en ont profité pour faire du ski devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. La chronique de Philippe Quentin, Pyeongchang 2018, premières impressions, point de suspension. Apprivoiser le vocabulaire de base coréen, une langue dont les racines nous sont inconnues, n'est pas facile. Pourtant, la première chose qu'on souhaite en arrivant au jeu de Pyeongchang, c'est d'être vite capable de dire bonjour et merci de manière compréhensible. Une simple marque de courtoisie, bien sûr, mais qui, dans ce cas-ci, se double de la volonté de s'adresser à nos hôtes aussi gentiment qu'ils le font avec nous. L'accueil est en effet formidable. Partout, les préposés ont le sourire et facilitent la tâche des visiteurs, que ce soit pour trouver le bon forfait de téléphonie mobile ou localiser le train qui nous conduit en 2h30 de l'aéroport d'Incheon à Gangneung. Je ne sais pas si je prononce correctement, ce fut la dernière étape d'un très long voyage qui, malgré son côté éreintant, s'est bien déroulé. Dans le trajet Vancouver-Séoul, une affaire de 11 heures, j'ai mangé une spécialité sud-coréenne, le bibimbap, un plat où on mélange du riz à la viande hachée et des légumes, champignons, courgettes, etc., et qu'on arrose d'huile de sésame et de sauce piquante. Une soupe aux algues et des fruits ont complété le menu. Aussi bien profiter de la cuisine locale le plus tôt possible. On sent les Sud-Coréens fiers de leur spécificité dans ce domaine. Les brochures et les articles pour nous en expliquer les fondements se trouvent partout. Si ces jeux sont associés à Pyeongchang, station de montagne qui accueille les épreuves de glisse et le centre de presse, les sports intérieurs sont présentés à Gangneung, ville côtière située une quarantaine de minutes plus loin. On trouve à Gangneung deux amphithéâtres de hockey, l'ovale de patinage longue piste, un stade pour les patinages courte piste et artistique et un autre pour le curling. C'est aussi ici que la plupart des journalistes sont logés dans de nombreuses tours d'habitation d'une vingtaine d'étages. Le coup d'œil, avouons-le, n'est pas franchement joli. Pour le prix d'architecture, faudra repasser. Mais on y faisait néanmoins des découvertes intéressantes. Ainsi, en quittant le buffet déjeuner hier matin, je suis tombée sur un kiosque où on fait la promotion de la littérature sud-coréenne. Des romans offerts en plusieurs langues, dont le français, sont prêtés aux journalistes que cela intéresse. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant des Jeux olympiques. Voilà une belle façon de faire rayonner la culture du pays. Un peu pressée, j'en ai choisi un au hasard dont je vous donnerai des nouvelles. Pensez qu'il faut... aller par là? Pensez-vous qu'il faut aller par là? Question. Celle qui pose la question est une journaliste qui vient d'obtenir, au même moment que ma collègue Sophie Allard et moi, son accréditation. Parle, parle, jase, elle nous apprend qu'elle travaille pour la CBC, l'antenne anglophone de Radio-Canada. Au bout d'un moment, elle me demande quel jeu j'ai préféré couvrir au fil des années. Je cite ceux de Londres en 2012. « Oui, c'était vraiment très bien, enchaîne-t-elle. Vous y étiez aussi? » Oui, mais comme athlète, je faisais partie de l'équipe de soccer. La vie est pleine d'imprévus. Si j'ai tant aimé les Jeux de Londres, c'est beaucoup en raison de cet extraordinaire groupe qui a arraché le bronze au terme d'un tournoi palpitant. C'était la première médaille canadienne dans un sport collectif aux Jeux d'été depuis 1936. Karina Leblanc était gardienne de but. Et si elle était réserviste dans les matchs décisifs, elle a connu une super carrière avant de se retirer 3 ans plus tard. Aujourd'hui, en plus de ses contributions dans les médias, elle est ambassadrice pour l'UNICEF. Nous avons évoqué les souvenirs de ce tournoi, où le Canada a été victime d'une terrible décision de l'arbitre dans son match contre les États-Unis, une affaire qui a causé une grosse controverse à l'époque. L'entraîneur des Canadiennes était John Herdman, récemment nommé à la tête de l'équipe nationale masculine. « Il travaille tellement fort, il aura du succès », affirme Karina Leblanc. Des rencontres semblables sont toujours de beaux petits moments dans la quinzaine olympique. Pas besoin de comprendre la langue du pays pour saisir quel est le sujet de prédilection des médias sud-coréens à l'approche de la cérémonie d'ouverture. Les relations avec la Corée du Nord. La présence d'athlètes de ce pays aux Jeux est un développement qui surpasse tous les autres, tout simplement parce que les enjeux sont beaucoup plus cruciaux que le sport. Les performances des Nord-Coréens, que ce soit sur les plateaux de compétition ou dans le volet culturel des Jeux, sont attendues avec impatience, de même que les interactions de leur délégation avec celles des États-Unis. Le New York Times évoque même la possibilité que le vice-président américain Mike Pence rencontre un haut dirigeant de la Corée du Nord durant son séjour à Pyeongchang. L'autre dossier majeur est celui du dopage russe à Sotchi, une affaire qui continue de bouleverser le sport international. En session officielle du Comité international olympique, CIO, hier, l'avocat montréalais Richard Pond a de nouveau pourfendu la manière dont l'organisation avait géré ce dossier, décriant le fait que les sanctions à l'encontre de la Russie n'aient pas été plus sévères. « Nous parlons davantage que nous agissons », a-t-il lancé. Richard Pond est la conscience du CIO, une conscience qui bouscule l'ordre établi, qui choque et provoque, mais une conscience essentielle. Au sein du mouvement olympique, il incarne presque à lui seul le nécessaire contre-pouvoir. Ses resplendissants états de service donnent à ses propos un poids énorme. Cela dit, reconnaissons que même si la délégation russe sera nombreuse à Pyeongchang, plusieurs athlètes de renom en seront exclus. Après la renversante décision du Tribunal arbitral du sport, TAS, qui a blanchi la semaine dernière 28 athlètes impliqués dans le scandale de Sotchi, le CIO s'est tenu debout et a refusé d'accueillir à Pyeongchang les 13 d'entre eux toujours actifs, en plus de 2 autres devenus entraîneurs. Mais d'autres décisions du TSA sont attendues au cours des prochaines heures. Toutes les cartes ne sont pas encore jouées. Ça va brasser jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Il fait un temps magnifique à Pyeongchang et à Gangneung. L'air est frais, mais sec. De belles conditions pour des Jeux d'hiver. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Au-delà de la météo, les tempêtes font partie du monde olympique. Allons-y avec quelques aubaines de la semaine. Voyage, vol, forfait tout inclus et escapade au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. Pris en vigueur hier, peuvent changer sans préavis. C'est Evelyne Audet qui signe cette chronique. Paris, où il neige en ce moment. Vol direct aller-retour Montréal-Paris, 657 $ par personne du 12 février au 5 mars avec Air Transat. Singapour, vol aller-retour Montréal-Singapour avec une correspondance à l'aller et 2 au retour, 795 $ par personne du 21 février au 14 mars avec United Airlines. Genève, en Suisse, vol aller-retour avec une correspondance 703 $ par personne du 21 février au 5 mars avec Air France. Aussi, West Palm Beach, en Floride, vol aller-retour avec une correspondance 258 $ par personne du 21 février au 1er mars avec Delta Airlines. Tout inclus, Runaway Bay, Jamaïque, au Grand Bahia Principe, 4,5 étoiles, 1 409 $ par personne en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus, 3 piscines, 1 buffet, 1 casse-croûte, 4 restaurants et 7 bars, du 14 au 21 février avec Air Canada. Et pour terminer, un tout inclus encore, Puerto Plata en République dominicaine, Emotions by Odelpa Playa Dorada 4 étoiles, 1195 par personne en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus, hôtel moderne avec piscine, 2 buffets, 4 restaurants à la carte et 5 bars, du 13 au 20 février avec Sunwing. Un petit vite en terminant. Forfait Saint-Valentin au manoir Rouville-Campbell, Montérégie à partir de 185 $ par personne en occupation double, taxes en su, valide les 9, 10, 14, 16 et 17 février, nuitée, souper 6 services, petit déjeuner complet, mousseux et chocolat à la chambre.